Déjà pour toute la pâtisserie, c'est vrai, le visuel est très important, mais je trouve encore plus dans une tarte aux fruits. Et puis d'une certaine manière, c'est prendre soin des fruits que de s'appliquer à les découper correctement, joliment, précisément, régulièrement. Et ça prend tout son sens quand on fait une tarte.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon. Quand on lui demande quel est son dessert préféré, ma mère répond toujours, sans hésitation, la tarte aux fraises. Rien d'étonnant à ça, puisque son fruit préféré par-dessus toutes les friandises qu'offre la nature, c'est la fraise. Dans cette histoire de goût pour la tarte aux fraises, ce sont donc surtout les fraises que ma mère aime. Bien équeutées, coupées, soigneusement alignées comme autant de petits bonbons rouges et bien brillants. Parce qu'en matière de pâtisserie, finalement, la tarte est le dessert le plus limpide qui soit. Contrairement à un chou renfermant une crème qui ne se dévoile qu'au premier croc ou à un entremets dont l'entremêlement de mousse et de ganache ne se révélera qu'à la découpe, la tarte dit tout ce qu'elle a dans le bide, immédiatement. Au premier coup d'œil, on comprend ce qu'on va trouver dans une tarte. Qu'elle soit aux fruits, au chocolat ou encore à la crème, la tarte est un plateau. Elle expose tout de suite ce qu'elle possède. Sa base de pâte brisée, feuilletée ou crue se meut en support, en plat, stable, sur lequel de beaux ingrédients sont présentés. Dans l'histoire de la pâtisserie, la tarte, qui date du Moyen-Âge, est l'une des pâtisseries les plus anciennes. Le principe très simple d'une base de pâte et d'une garniture est un véhicule qui a connu beaucoup de déclinaisons au cours de l'histoire, s'adaptant à différents contextes géographiques, s'imprégnant ci et là d'une diversité d'ingrédients et de pratiques propres au terroir. Il y a la tarte aux pommes que l'on retrouve dans toutes les régions de France, un grand classique puisque la pomme est le fruit le plus consommé dans notre pays, la tarte à la crème de marron que l'on mange en Ardèche, celle au fromage blanc en Alsace, le papé jurassien qui est une espèce d'appareil à flanc posé sur une pâte à brioche, la tarte aux pralines à Lyon, la tarte Bourdaloue inventée par un pâtissier parisien rue Bourdaloue, sorte d'entremets chaud de frangipane et de poire sur une pâte sablée, la tarte tatin, sorte de tarte aux pommes renversée, inventée accidentellement en Sologne, la tarte tropézienne inventée à Saint-Tropez à partir d'une recette de gâteau brioché à la crème ramenée en France par un pâtissier d'origine polonaise, ou encore la tarte aux pruneaux de l'Île-Dieu. Arrêtons-nous là tant il y a de tartes différentes en France, et c'est sans compter ailleurs dans le monde avec la pecan pie aux États-Unis ou encore la tarte aux œufs qu'on mange à Hong Kong. Pour parler de tarte, je suis allée à la rencontre de Marine Benayoun, pâtissière indépendante qui a fait ses armes à l'épicerie L'Idéal à Marseille. Dans une vie de pâtissière, la tarte est un exercice de style central, puisqu'il est l'objet d'une des premières leçons du CAP. J'ai commencé par demander à Marine de me parler de son premier souvenir marquant lié à une tarte.
Je pense qu'un des premiers souvenirs de tarte que j'ai, si j'essaie de me remémorer assez loin, c'est quand j'étais étudiante à Paris. Et je trouve que quand tu es étudiant et que tu te fais des repas un peu à l'extérieur, des repas que tu as pensé, que tu as réfléchi, que tu as anticipé et tout, ça a une dimension un peu particulière, quoi. Moi, je sais que quand je sortais, quand je choisissais un resto, c'était vraiment quelque chose. Et en l'occurrence, dans le Marais, il y avait un petit salon thé qui s'appelle, qui existe toujours peut-être, le Loire dans la Théière, où tu pouvais manger à toute heure de l'après-midi des tartes. Et les tartes, elles étaient absolument toutes en exposition sur une espèce de grand buffet en bois. C'était une déco un peu comme si tu étais chez ta grand-mère, quoi, en fait. Et donc, il y avait, selon la saison, tarte aux fruits, tarte aux myrtilles. Et leur best-seller, le truc qu'il y avait tout le temps, à chaque fois que tu y allais, c'était la tarte au citron meringuée. Elle était tout le temps en expo. Et la particularité de leur tarte au citron, c'était qu'il y avait une couche de meringue, mais absolument délirante. Mais délirante. Enfin, je pense que la première fois que j'ai découvert, j'ai dû y amener toutes mes copines ensuite, puis ma mère, parce que je sais qu'elle adore la tarte au citron meringuée, et que j'y retournais toujours précisément pour manger cette tarte. Ça me fascinait parce qu'à l'époque, j'étais pas encore reconvertie en pâtisserie. Franchement, je savais pas faire grand-chose en cuisine et ça me semblait être une prouesse technique. Enfin, non seulement j'étais ravie de la manger parce que j'adore ça, mais même j'étais fascinée par la prouesse que ça devait représenter, enfin que ça représentait à mes yeux, quoi. Ça m'a vachement marquée aussi parce que j'ai beaucoup de souvenirs, quoi. C'était le prétexte toujours à se retrouver avec des copines pour cette tarte.
Est-ce que la tarte, c'est une épreuve importante ou en tout cas un passage obligé quand tu passes un CAP ? Est-ce que c'est un truc qui intervient tôt dans la formation ?
Oui, bah, c'est rigolo parce que c'est vraiment... Je me souviens du premier jour de TP en CAP. C'est le premier cours en fait, qu'on a eu en TP de CAP. C'était les tartes. Je me souviens, c'était une tarte aux pommes et une tarte bourdaloue. Et je me suis dit que c'était logique, en fait, parce que c'est vrai, quand tu reprends un CAP, d'autant plus un CAP de reconversion, il y a une espèce de remise à niveau qui se fait. Donc, commencer par un classique un peu comme ça, tu vois, un truc que tout le monde est censé savoir faire et en même temps qui pose un peu les bases. Et on a commencé par ça, ouais, tarte aux pommes et tarte bourdaloue.
Tarte bourdaloue, c'est vraiment trop, trop bon. Et c'est pas si simple que ça à faire, en fait, quand on y réfléchit, une tarte bourdaloue. Il y a quand même beaucoup de... Il y a plusieurs étapes.
Il y a des petites couches et surtout, il y a des petites subtilités à connaître en fait avant de la faire parce que donc, c'est une base de pâte sablée avec une crème d'amande et donc avec une poire qui a déjà été pochée au préalable, qui va être coupée en deux et posée au milieu de la crème d'amande. Mais dans la manière de faire la crème d'amande, si on la foisonne trop, c'est-à-dire si on la travaille trop quoi, quand on la prépare, elle va beaucoup plus gonfler à la cuisson et du coup, elle va complètement déborder du moule. Donc en fait, il faut savoir trouver la bonne dose entre à la fois pas trop la travailler, puis à la fois juste pas en mettre trop dans son fond de tarte pour que esthétiquement, ça ait... L'aspect qu'on connaît de la tarte bourdaloue, quoi.
T'avais déjà fait une tarte bourdaloue avant d'apprendre ça pendant ta formation ?
Non, jamais. Jamais pour moi, c'était vraiment un truc old school de la pâtisserie française. Ouais. Je crois même que j'en ai jamais acheté ou mangé. Pour moi, c'était un truc un peu lourd. Alors qu'en fait, après, j'en ai refait des tonnes depuis que je travaille parce que... Il y a mille... Bon, bah, bien sûr, bourdaloue, c'est toujours avec des poires, mais même une crème d'amande... Il y a mille manières de l'aromatiser possible. On peut faire une crème d'amande avec de la poudre d'amande, mais on peut faire avec de la poudre de noisette, avec de la poudre de pistache. On peut mettre une pointe d'alcool si on a envie. On peut ajouter des zestes d'un agrume. Enfin, parfois, tu vois, si par exemple on a du beurre bordier au yuzu, bah, ça m'est déjà arrivé d'utiliser le beurre bordier au yuzu pour faire une crème d'amande au yuzu, du coup. Et en fait, il y a... mille manières de la décliner autre que la manière tradie qu'on apprend au CAP, quoi, je trouve.
Et donc, tu me disais aussi que tu as dû faire une tarte citron meringuée pour ton examen de CAP, c'est
ouais,
ça ?
Ouais, ouais. Bah, c'est un peu un passage obligé de la pâtisserie française, je trouve, la tarte au citron meringuée. Et ça paraît assez simple parce que c'est présent sur toutes les tables et même très souvent, en fait, dans les desserts de bistrot, tu peux trouver une tarte au citron meringuée en dessert. Et en fait, il y a quand même une... moi, je me souviens que la meringue italienne au CAP, elle me donnait pas mal de sueur froide parce que c'est quand même assez technique, quoi, finalement, à réussir. Et puis, tu as le visuel qui est hyper important. Et encore une fois, cette meringue où il faut monter tes blancs, il faut verser un sirop qui atteint certains degrés très précis au moment où tu verses ton sirop pour monter ta meringue. Donc, c'est pas si facile et anodin que ça, ouais. Même si c'est présent sur beaucoup de tables. C'est pas si facile.
Du coup, t'as vraiment un truc avec la tarte citron meringuée entre l'émotion de quand t'étais étudiante et que tu te payais celle-là dans le marais et du coup, l'épreuve de feu au CAP.
Et la découverte du bulletin d'épreuve au CAP, ouais, complètement, complètement.
Tu l'as réussi ce jour-là ?
Oui, je l'ai réussi, ouais.
Ah, ouais, trop bien.
Je l'ai réussi. Je crois que j'ai un peu fait brûler la crème au citron parce que, contrairement à une pâtissière, ça cuit et ça brûle. C'est beaucoup plus fragile que la crème pâtissière. Ouais. Donc, il faut vraiment la surveiller, pas mettre le feu trop fort. J'ai dû la faire brûler un poil, mais ça ne m'a pas empêché d'avoir mon CAP. Donc.
Ouais. Alors du coup, si toi, la tarte citron meringuée est la tarte un peu fondatrice de plusieurs moments importants de ta vie, moi, je dirais que la mienne de tarte, même si j'ai eu longtemps du mal à la mettre dans la catégorie tarte, mais c'est quand même bien une tarte, c'est la fameuse tarte au chuc, comme on dit dans le nord de la France. Donc la tarte au sucre. Et c'est une tarte que j'associe très fortement au samedi après-midi que je passais avec ma mère quand on allait faire les magasins en ville, comme on dit. Et qu'en fait, ma maman, donc, elle se disait qu'on passait du temps qualitatif ensemble, que j'étais là aussi pour lui raconter un peu ma semaine, mes secrets, mes histoires avec mes copines. Et moi, j'étais à moitié là pour faire ça, évidemment, mais aussi lui estorquer une nouvelle fringue.
J'ai exactement les mêmes souvenirs, sauf que moi, ça se situe au Belle Épine de Thiers, en banlieue parisienne, mais c'était à peu près la même trajectoire d'après-midi. Ouais.
Et aussi, évidemment, à 16h30, passer chez Paul pour acheter une tarte au Chuc. D'ailleurs, parce que Paul, en fait, au-delà d'être une chaîne aujourd'hui bien connue, c'était avant tout, dans les années 60, une famille qui a ouvert une petite boulangerie-pâtisserie. Et c'est là, notamment, qu'on pouvait manger de super bonnes tartes au Chuc.
Mais c'est marrant que tu parles de cette tarte, parce que moi aussi, j'ai un souvenir de tarte que je ne mettais pas spontanément dans la catégorie des tartes, qui est un dessert que j'ai mangé en Corse il y a très très longtemps, quand j'avais 12 ou 13 ans. J'allais très souvent en vacances pour voir mon oncle et ma tante. Et un jour, dans une boulangerie, on a mangé un... C'était comme un dessert, c'était vraiment un dessert d'ailleurs, sur une base de pâte à pain très très fine et avec dessus de la brousse fouettée, sucrée, avec des zestes de citron très très parfumées. Je me demande même s'il n'y avait pas un peu d'alcool posé sur cette base de pâte à pain. Et j'en ai mangé que là. Je ne connais pas le nom de ce dessert, mais j'en garde encore aujourd'hui le souvenir. Et bon, c'est pas une tarte aux fruits, mais effectivement, je pense que ça peut rentrer dans la catégorie des tartes aussi.
Comme quoi, il y a tellement de tartes différentes, finalement, entre la tarte au Chuc dans le Nord et puis ces tartes qu'on trouve en Corse. On peut penser, on a parlé déjà de la bourdalou, mais on peut penser à la tarte tropézienne, on peut penser aux tartes au quetch, tartes à la crème de marron qu'on sert en Ardèche. Est-ce que tu penses à d'autres tartes, d'autres types de tartes
Ouais,
en France ou même partout dans le monde?
C'est vrai que du coup, là, spontanément, bien sûr, je connais des spécialités de tartes françaises, certaines dont on a parlé. Il y a la tarte aux myrtilles dans les Alpes, la tarte à thym, la tarte normande, la bourdalou dont on a parlé tout à l'heure, évidemment. Mais c'est vrai que spontanément, je pense, de par ma manière de cuisiner et mon prisme de l'épicerie qui est vraiment très ouvert aux cuisines du monde et de la Méditerranée particulièrement, quand je pense à des tartes, je pense aussi à des manières de réinterpréter ce classique de la pâtisserie française avec le regard d'autres pays, d'autres cultures. Par exemple, ça m'est arrivé quelquefois à l'épicerie de faire un fond de tarte avec la pâte filo qu'on peut trouver beaucoup dans le quartier de Noailles, ici à Marseille, en la faisant caraméliser, en ajoutant énormément de feuilles de pâte les unes sur les autres. Un peu le même principe que dans la tarte... Comment on appelle cette tarte qu'on trouve dans le sud-ouest, que j'ai déjà faite d'ailleurs avec plein de pâtes filo et des couches de pommes aussi à l'intérieur, et flambée avec un alcool. Ben en fait, tu fais ton fond de tarte avec toutes ces pâtes filo et puis dedans, tu peux le garnir, faire une tarte au chocolat ou garnir avec une crème pâtissière et des fruits, ou le cadaïve, ces cheveux d'ange qui sont beaucoup utilisés dans la pâtisserie orientale, qui, travaillés avec de l'huile d'olive et du sucre, peuvent faire un fond de tarte en fait. Mm. Et donc, c'est spontanément à ces réinterprétations de la tarte auxquelles je pense. Ouais.
Et alors justement, puisqu'on parle de la tarte, on peut peut-être commencer une opération un peu chirurgicale et décomposer un peu les différents éléments qu'il y a dans une tarte. Il y a le fond de tarte, du coup, qui peut être de la pâte brisée, pâte feuilletée, ou alors aussi préparée à partir d'autres ingrédients, comme tu l'as dit tout à l'heure, avec la pâte filo, accommodée, préparée de telle ou telle manière. On peut trouver un appareil... Au-dessus de l'appareil, la garniture. On a aussi le bord qui correspond à la pâte qu'on va venir foncer dans le moule. Et éventuellement, un nappage ou des éléments décoratifs par-dessus. Est-ce que tu dirais que c'est à peu près ça qu'on va trouver dans une tarte ?
Oui, complètement, c'est à peu près ça. Après, dans ce cadre-là, il y a 1000 variations possibles, ne serait-ce que par le choix de la pâte et... comment cette pâte va être accommodée ensuite. Par exemple, si je fais plutôt des fruits cuits, je vais utiliser plutôt une pâte sablée. La pâte sucrée, je vais plutôt l'utiliser vraiment pour la foncer dans un moule, plutôt pour une tarte rustique. La pâte sablée, je l'utiliserai plutôt pour abattre les bords et mettre des fruits que je vais faire cuire avec tout le reste. La pâte sucrée, je vais vraiment la foncer dans un moule. J'ajouterai plus des fruits frais. Même la garniture, ça peut être la crème d'amande dont on parlait pour une bourdalou. Ça peut être souvent avec la tarte aux fraises, je fais une chantilly au mascarpone aromatisée avec de la fleur d'oranger ou la crème infusée avec une herbe que j'ai sous la main. Ça peut être aussi une crème pâtissière. Quand c'est une tarte rustique, généralement, j'ajoute juste un tout petit peu de poudre d'amande pour absorber le jus des fruits qui vont cuire et qui donc vont rendre beaucoup plus de jus qu'un fruit frais qu'on va venir poser sur la tarte.
Et c'est quoi alors les secrets d'une tarte réussie pour toi ?
En premier lieu, c'est qu'elle soit, pour moi, montée à la dernière minute avant d'être mangée, parce que je trouve qu'il n'y a rien de meilleur que d'avoir ces différentes couches que tu as décrites juste avant, qui ont encore toute leur autonomie dans la tarte, d'avoir la pâte qui est encore bien croustillante, qui n'a pas été détrempée par l'appareil qu'on a posé au-dessus. Surtout ça, en fait, que tout ne se soit pas trop amalgamé. Et puis, bien évidemment, si c'est, comme dans la plupart des cas, une tarte aux fruits, à partir du moment où on a des fruits de saison qui sont parfaitement mûrs, ça se suffit à soi-même, en fait. C'est déjà suffisamment parfumé, sucré, pour qu'il n'y ait pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Une pêche, un abricot, une fraise mûre. Il y a juste à le poser sur un beau fond de tarte, quelques herbes aromatiques dessus, éventuellement, si on veut. Mais en fait, c'est quasiment l'élément le plus important. Il y en aurait peut-être un autre, quand même, là, auquel je pense. C'est quelque chose auquel j'essaie de faire attention en général dans les desserts, et je trouve en particulier quand on travaille les fruits, si on ajoute en dessous une crème pâtissière ou une crème fouettée, je pense que c'est important que ça soit pas trop sucré, parce que si c'est trop sucré, ça va masquer le goût du fruit. Si on a déjà des fruits de saison et qui sont parfumés, comme je disais, et mûrs, bah ça sert à rien. Le sucre, je trouve, généralement est là pour emporte un peu tout le reste, en fait. Donc, si je vais faire une chantilly ou une crème pâtissière, ben, j'essaie toujours que ce soit frais et pas trop dosé en sucre pour que ça prenne pas le pas sur le reste, quoi. Et puis, le visuel aussi, je vais pas parler du visuel, mais c'est un dessert qui est tellement simple que, déjà, pour toute la pâtisserie, c'est vrai, le visuel est très important, mais je trouve encore plus dans une tarte aux fruits. Et puis, d'une certaine manière, c'est prendre soin des fruits que de s'appliquer à les découper correctement, joliment, précisément, régulièrement. Et ça prend tout son sens quand on fait une tarte, encore plus.
Oui, j'arrive pas à me décider entre est-ce que la tarte est un dessert finalement assez précieux dans le sens où c'est un dessert qui se pense presque un peu comme un joli plateau, un plateau d'argent sur lequel tu viendrais disposer des ingrédients très beaux, très délicats. Est-ce que du coup il y a ce côté très précieux, limite un peu m'as-tu vu, genre voilà, je te montre tout ce que j'ai dans le bide, il est posé là, ou si c'est pas à l'inverse un dessert très humble dans la mesure aussi où dans sa version la plus simpliste, la tarte finalement ça n'est que un support avec dessus des choses, quoi. C'est pas un entremets qui va venir raconter autre ouais. chose que ce qu'il montre.
Moi, je suis plutôt d'accord avec la deuxième version. Je trouve que très souvent, te prend l'envie de faire une tarte parce que t'es allé cueillir des trucs ou alors t'es passé au marché et t'as vu des fruits magnifiques. Je trouve que si on va ici, par exemple, au marché paysan, au cours Julien, il y a mille fois où je me dis « Waouh, là, les abricots ou les pêches ou les fraises, elles sont magnifiques, j'en ferais bien une tarte.
Ouais. »
Ou je les poserais bien juste sur quelque chose sans les transformer à l'infini.
Oui.
Donc pour moi, c'est plus la deuxième version, la version, la définition de la plus humble.
Et finalement, un truc en miroir de ce qu'on vient de dire, ce serait peut-être les tartes qu'on mange dans les Alpes, la tarte de la vallée ou la tarte de la vallée de Val-Gaudemar, qui est préparée l'hiver avec les fruits transformés en confiture l'été. Et donc c'est vraiment une, tu m'arrêtes si je me trompe, mais une pâte sablée sur laquelle on vient disposer donc cette confiture qu'on va cuire à nouveau.
Oui, bah, je pense que c'est complètement le pendant de la crostata italienne dont on a parlé tout à l'heure. Et je trouve que c'est complètement dans la continuité de ce qu'on vient de dire, d'utiliser, mettre en valeur les fruits. Dans le cas de la confiture, utiliser le fruit jusqu'au bout et pouvoir le garder, faire perdurer la saison. Et dans le cas des fruits frais, bah, de juste le mettre en valeur tel qu'il est cueilli à maturité avec une date de péremption qui va être très très proche dans le temps, et profiter de cette maturité parfaite du fruit, le mettre en valeur des deux manières, ouais. Y faire attention, quoi.
Cette crostata ou même cette tarte des Alpes, elles sont reconnaissables aux espèces de bandelettes qui quadrillent la tarte, des bandelettes de pâte. Est-ce que tu penses que ces bandelettes ont une utilité ? Pourquoi elles sont là finalement, ces bandelettes ? Est-ce que c'est que esthétique ?
J'en ai pas vraiment la certitude et je l'ai jamais vraiment lu quelque part, mais j'aime à penser que c'est une manière de... Sachant qu'en plus, la crostata est un dessert populaire, dans le premier sens du terme, en Italie, que c'est une manière de réutiliser les débords de pâte quand on la fonce et qu'on égalise la pâte dans le moule, en fait, ouais. De ne pas la perdre.
Oui, donc vraiment un esprit aussi de ne pas gâcher, quoi, peut-être tout simplement.
Très pratico-pratique, quoi.
Ouais. Ça doit être un dessert aussi assez domestique. Enfin, je ne sais pas si les gens font beaucoup ça encore aujourd'hui chez eux, mais il doit y avoir un côté assez, oui, comme tu l'as dit, rustique et, oui. et paysan dans cette préparation. Alors, on a parlé de différents types de pâtes. J'aimerais bien qu'on revienne un peu là-dessus. Pâtes feuilletées, pâtes brisées, pâtes crues aussi. Quelles pâtes pour quels usages, selon toi ?
Moi, il y a deux types de pâtes que j'utilise vraiment en priorité. C'est la sablée et la sucrée, parce que je trouve qu'elles se prêtent, de par leur texture et le fait qu'elles ont déjà une quantité significative de sucre qui est intégrée à la pâte, je trouve qu'elles se prêtent très bien aux fruits. La pâte brisée, moi, je l'utilise un peu moins. Je sais qu'on peut l'utiliser, mais tout simplement parce qu'elle est très peu sucrée, en fait. Et moi, je préfère utiliser des pâtes déjà sucrées avec les fruits. Après... La différence principale entre les deux, ça va être à la fois la texture. La pâte sablée, elle va être plus friable, alors que la pâte sucrée aura un côté beaucoup plus croquant sous la dent. Ça, je pense que ça vient juste de la manière dont on les fabrique, parce que c'est deux procédés assez différents. La pâte sucrée, on utilise ce qu'on appelle un beurre pommade, qui est un beurre qui est pas du beurre fondu, mais qui est déjà un beurre ramolli. Et en première étape, on va le crémer avec le sucre glace. C'est le sucre glace, d'ailleurs, qui va apporter le croustillant. Ensuite, on ajoute les autres ingrédients. Mais le beurre qui est utilisé à la base, il est déjà mou. Alors que dans la pâte sablée, on va venir, sabler le beurre. Donc un peu comme quand on fait un crumble, en fait. On utilise du beurre froid avec la farine et puis on le passe comme ça entre les mains pour que ça donne des petites pépites, en fait, de farine et de beurre et surtout pas une texture homogène. Et c'est ça qui va donner la texture plutôt friable de la pâte sablée. Moi, c'est les deux que j'aime bien utiliser. Un jour, j'ai fait des biscuits suédois à l'épicerie parce que je ne sais pas pourquoi.
Je les ai goûtés en plus, je crois.
Les princes, là.
Ouais.
Et en fait...
Trop bon.
C'est les biscuits Ikea, en fait. C'est les biscuits qu'on trouve chez Ikea.
Ouais.
Et donc, Julia avait pas mal de souvenirs de biscuits suédois. Et puis, je me suis dit, je vais essayer ça. Et un jour, j'avais cet appareil qui est vraiment... c'est même pas un appareil, c'est une pâte, hein, vraiment. Et je me suis dit, est-ce que je ferais pas un fond de tarte avec ça ? Et donc, je l'ai abaissé dans des petits cercles, je l'ai cuit, et en fait, ça faisait comme des palais bretons.
Mmh.
Et après, juste garni de crème fouettée, de fruits frais, et c'était trop bon. Et j'aurais jamais pensé que ça ferait un fond de tarte comme un palais, quoi.
Ouais.
Mais c'était vraiment hyper intéressant comme goût, parce que du coup, il y avait de l'avoine dedans. Donc, avec l'avoine, ça donne un côté un peu torréfié, un peu... Enfin, c'était super bon.
À chaque fois que j'entends parler quelqu'un de pâtisserie, j'ai l'impression que ce qu'il y a de cool aussi, enfin, ce qui anime les pâtissiers et les pâtissières, c'est ce côté expérimental. Genre, tiens, je vais essayer de faire un fond de tarte avec ça, ou qu'est-ce qui se passe si je monte ça en neige, ou que je vais le faire cuire plus ou moins longtemps. C'est une dimension, l'expérimentation, qui peut-être... existe, c'est pas qu'elle n'existe pas, elle existe différemment, je pense, dans la cuisine peut-être salée, où tu peux toujours un peu réajuster les choses. Là, il y a quelque chose de l'ordre de la chimie et d'un procédé à respecter. Est-ce que c'est quelque chose, sont des éléments qui te plaisent, toi, dans la pâtisserie ?
Moi, c'est vraiment quelque chose que j'avais beaucoup en tête au début, quand j'ai commencé. Ce côté un peu magique. Ce côté un peu magique où une fois que les choses elles sont lancées, une fois que tout est mis ensemble, une fois que ça passe au four, effectivement, il n'y a pas trop de retour en arrière, quoi. T'as pas mille manières d'ajuster, t'as pas mille manières de faire gonfler un gâteau qui gonfle pas. Il y a aussi vachement ce truc, c'est pas que les goûts, c'est les textures aussi. Mmh. Et les textures, tu peux pas vraiment y faire grand-chose une fois que c'est... Donc il y a vraiment ce côté dangereux, en fait. Ouais. Une fois que tu t'es lancé dans quelque chose, si t'es à... deux tiers du procédé, tu pourras pas revenir en arrière, quoi.
Ouais.
Et j'aime bien cette magie-là, en fait.
Tout ce que tu peux faire, c'est renommer un peu les choses, parce que moi, ça m'est déjà arrivé, du coup.
Moi aussi.
Mon gâteau n'est pas cuit, je vais le mettre dans une verrine, et ce sera un mi-cuit par-dessus lequel je vais mettre un biscuit et quelques fruits, et on va dire que c'était une sorte de nouvelle verrine.
Je vois très bien. Ouais, oui, c'est vrai.
Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la pâtisserie ? Qu'est-ce qui t'a poussé à... te lancer là-dedans.
Il y a quelque chose de très sensible dans la pâtisserie, dans la cuisine en général. Mais comme moi, je ne suis pas cuisinière, je ne peux pas vraiment complètement comparer. Je trouve que la pâtisserie, c'est très souvent lié à des souvenirs d'enfance, en fait. Et quoi qu'on veuille, quoi qu'on puisse dire, en fait, on essaie toujours de retrouver le souvenir de tel gâteau qu'on a mangé, les souvenirs, comme on a pu évoquer tout à l'heure, qu'on a mangé à tel endroit, avec telle personne, quand on avait tel âge. Il y a encore 15 jours, j'ai trouvé une recette toute bête de cake à l'orange et à l'huile d'olive. J'ai passé une semaine à le refaire tous les jours et à m'émerveiller sur le fait que la texture était parfaite et surtout que ça avait précisément le goût d'un beignet que ma grand-mère nous faisait très souvent, qu'elle appelait les cuisses de dame.
Ah oui ?
Qui est un beignet qu'elle servait pendant les fêtes, qui était un beignet, mais qui ressemble pas du tout, qui avait pas du tout la légèreté des beignets, qui aurait pu ressembler à un beignet raté en fait, très très dense, avec une texture de gâteau et entièrement roulé dans le sucre. Wow. Et en fait, juste avant de faire cuire le gâteau, je me suis dit, je vais juste beurrer les parois et puis je vais les chemiser avec du sucre pour que ça fasse juste une croûte de sucre en fait autour, parce que c'est quand même un gâteau assez simple. Et en fait, quand j'ai coupé une part, j'ai eu l'impression de regoûter ces fameux, je dis beignets, mais en fait, ces gâteaux de ma grand-mère que je n'ai pas mangé depuis 10 ans. Et je trouve qu'il y a cet aspect très, très sensible quand on peut y mettre beaucoup de choses, beaucoup de souvenirs, beaucoup de soi, peut-être différemment de la cuisine encore, quoi. C'est vrai que les premières recettes que j'ai eu envie de faire, c'était toujours des choses qui se rapportaient à des choses que j'ai cuisinées avec mes grands-mères ou que j'ai mangées à l'heure du goûter. En tout cas, c'est là que j'étais à chaque fois le plus émerveillée d'avoir réussi à me rapprocher d'un goût qui m'évoquait autant de souvenirs.
Marine l'a dit, il y a plusieurs paramètres auxquels faire attention si l'on veut réussir une tarte. Simple d'apparence, la tarte est pourtant plus qu'une pâte sur laquelle on dispose un appareil et des éléments décoratifs. Une tarte, c'est un bon équilibre entre une pâte pas trop détrempée, bien cuite, pas trop sèche et assez solide pour supporter de la crème ou encore des fruits. C'est donc, au-delà de l'image dominicale du dessert familial simple à enfourner, une leçon de chimie, comme toujours en pâtisserie. Merci à Marine Benayoun de nous avoir donné de son temps pour parler de tarte. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et un avis sur Apple Podcasts. Ça nous aide beaucoup à bien référencer notre travail. Bouffon est un podcast de nouvelles écoutes que j'anime avec l'aide en coulisses de Cassandra de Carvalho et Mathilde Jonin. Montage et mixage par Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Maillot.